Je donne la parole à la Suisse.
Mr. Chair.
Monsieur le Président, merci beaucoup de ce document de réflexion très utile. Il présente un certain nombre de questions importantes auxquelles il faudra répondre. Vos questions ont permis ou ont formé les présentations, les exposés des conférenciers invités. Ils ont inspiré des discussions tant dans cette salle que dans les manifestations parallèles. Je pense qu'on peut dire à juste titre que même s'il subsiste un grand nombre de questions associées avec les systèmes d'armes autonomes, il y a un certain nombre de points communs, de questions communes qui apparaissent clairement tant dans les documents de travail que dans les discussions de ces 3 derniers jours. Nombreuses ont été les délégations qui semblent d'accord pour dire que ce serait la prochaine étape utile, ce serait d'avoir une définition de travail préliminaire. Nous semblons être tous d'accord pour dire que les systèmes pleinement autonomes n'existent pas toujours, pas encore, pardon, mais avec des systèmes qui sont de plus en plus autonomes, leur apparition n'est plus qu'une question de temps. À cet égard, nous pensons également que, d'une façon générale, on est d'accord pour dire qu'il n'est pas nécessaire, ni possible, ni souhaitable de définir maintenant ou d'établir maintenant une définition au sens où nous en aurions besoin dans un instrument juridique qui les régulerait. Deuxième aspect, il faut continuer d'étudier la notion de contrôle significatif par l'humain, mais sur le principe, personne n'accepterait les armes sans aucun contrôle humain, tant pour des considérations éthiques que du fait de la nécessité de respecter le DIH. Je voudrais faire quelques commentaires également sur l'applicabilité du DIH et sur les responsabilités. Tout d'abord, il est clair pour nous, il apparaît clairement pour nous que les principes et règles du droit humanitaire international qui s'appliquent aux conflits armés s'appliquent à toutes les formes de guerre et toutes les formes d'armes du passé, du présent et du futur. Donc, le développement et l'emploi dans des conflits armés de ces technologies doit toujours se faire dans le respect du DIH et cela comprendre également les systèmes d'armes autonomes. Nous voudrions souligner que, puisque les systèmes d'armes autonomes n'ont pas la personnalité juridique, au moins dans un avenir proche, ils ne peuvent pas être des agents au sens humain, que ce soit des agents étatiques ou des acteurs non étatiques. Il semblerait donc qu'il ne soit pas nécessaire d'appliquer le droit mutatis mutandis à eux ou bien des mécanismes de médiation. Alors que le DIH est le corpus le plus pertinent du droit international qui régit l'élaboration des systèmes d'armes autonomes et leur emploi dans les conflits armés, il y a d'autres branches du droit international qui peuvent également imposer des limites à l'utilisation de la force dans les conflits armés. En ce qui concerne la reddition de comptes, deux dimensions sont importantes pour ce qui concerne les systèmes d'armes autonomes, à savoir la responsabilité des États et la responsabilité pénale individuelle. D'abord, pour ce qui concerne la responsabilité des États, nous soulignons que les États restent juridiquement responsables des actes illicites et du préjudice qui résulte des systèmes d'armes autonomes qu'ils utilisent. Les règles qui régissent l'attribution de la conduite à un État sont pertinentes pour ce qui concerne les systèmes d'armes autonomes, comme pour tous les autres moyens ou méthodes de guerre. Compte tenu du fait que ces systèmes n'ont pas de personnalité juridique, ils ne peuvent pas devenir des agents au sens humain. La question de la responsabilité de l'État, donc, ne tourne pas autour de la nature ou de la capacité de ces systèmes, mais du statut factuel et juridique de la personne ou de l'entité qui décide de leur utilisation. En ce qui concerne la deuxième dimension de la responsabilité, celle de la responsabilité pénale, il est important de noter encore une fois que puisque ces systèmes d'armes autonomes ne détiennent pas une personnalité juridique propre. Cette question de la responsabilité pénale individuelle tourne autour de la responsabilité des êtres humains qui sont impliqués, quoi, que ce soit en tant qu'opérateur, officier du commandement, programmateur, ingénieur, technicien et autres fonctions qui s'appliquent. En ce qui concerne enfin donc l'aspect juridique, les SALA sont bien des systèmes d'armes au sens de l'article 36 du protocole additionnel 1, premier, et donc sont tout un processus d'examen en bonne et due forme s'applique à eux comme pour toutes les autres armes. À cet égard, je voudrais vous renvoyer également au document de travail présenté par les Pays-Bas par la Suisse pour des considérations plus générales sur ce processus d'examen des armes et les recommandations qu'il contient. Dans votre document, vous demandez comment les systèmes d'armes autonomes s'inscrivent dans les examens nationaux existants. Il a été dit que ces systèmes, que les systèmes autonomes que les systèmes autonomes qui ont une autonomie dans leur cycle de ciblage peuvent poser des défis spécifiques à l'examinateur. À notre avis, ces difficultés spécifiques pour l'examinateur seront d'un côté, donc caractériseront d'un côté typiquement les SALA et d'autre côté, puisqu'il est très probable que ces armes ne seront pas totalement autonomes pour ce qui concerne les détecteurs, leur fonction et leur coopération et communication au sein d'un réseau de systèmes d'ores et déjà existants. L'intégration d'un système SALA dans un réseau de systèmes déjà existants posera la question de savoir jusqu'où ces systèmes peuvent affecter l'applicabilité du droit. Comme d'autres l'ont dit, il est important de ne pas se centrer sur ce que nous ne comprenons pas encore, mais sur des questions de politique. La Suisse est prête à rechercher des résultats concrets et pratiques. Pour répondre à l'intervention de l'Allemagne et de la France, je voudrais ajouter que la Suisse, sur le principe, appuie l'orientation générale proposée. Nous pensons qu'une telle déclaration pourrait constituer une nouvelle étape pragmatique et réalisable qui apporterait un grand nombre d'avantages. Une telle déclaration politique permettrait de centrer notre travail, de créer une nouvelle dynamique et de devenir une plateforme permettant d'obtenir des résultats concrets. Et surtout, une déclaration politique permettrait aux hautes parties contractantes de réaffirmer et dénoncer le droit international applicable au système autonome et de s'engager à une certaine forme de jugement humain et de contrôle humain permettant le respect des dispositions.